Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillez dès le mardi 9 avril.
Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
Alors, les chicots de l'échangeur de Turcot, un an plus tard, Félix.
Hey, triste et drôle, Richard. Je veux souligner le travail d'Annabelle Blais ce matin, Dominique Cambron-Goulet, mes collègues estimés du bureau d'enquête. Tu te rappelles, il y a un an, là, un peu plus, on avait fait un texte sur des arbres qui étaient plantés près de l'échangeur Turcot pour compenser les émissions de gaz à effet de serre qui étaient émises par sa reconstruction. Alors, ce qu'on avait finalement sorti à cette époque-là, et ce qui est très drôle, c'est que ils vont devoir survivre au moins 100 ans pour que Québec respecte cette promesse-là, parce qu'au fond, hein, on échange des arbres plantés contre la réduction de GES. Sauf que là, ben évidemment, comme tout journaliste qui se respecte, on a fait nos suivis, mes collègues ont fait leur suivi. Je sais pas si vous avez vu les images aujourd'hui, là, mais c'est des chicots. Il reste rien, ou presque, de certains arbres. Les 5 plantations là qui ont été visitées, là, en Montérégie, entre autres, là, les fameux tuteurs qui tiennent les chicots, là, sont soit renversés, sont soit endommagés. T'en as un, d'ailleurs, avec une belle bouteille de Gatorade. Écoute, franchement, je trouve que c'est un suivi qui est presque comique, mais je vais te dire qu'est-ce qui est comique dans ça, selon moi. Et ça représente assez bien le fonctionnariat au Québec. Alors, là, ce qu'on voulait savoir, puis mes collègues, ils ont fait leur job, ils sont allés voir l'entreprise qui a obtenu le contrat de 800 000 $ plus un extra de 305 000 $ pour planter les 17 000 premiers arbres, puis les entretenir pendant 5 ans. Et là, ben, mes collègues leur ont probablement dit, montrer les photos à Jonathan Volduc, le président de l'entreprise, en disant, mais regarde, ça a l'air de ça. Lui, ben, en fait, il dit que ça veut pas dire que l'entretien n'a pas été fait, que ça n'a pas été respecté, que ça sera pas fait, que la saison n'est pas terminée, puis qu'il reste des choses à faire. Par contre, et c'est là où ça me fait le plus rire, dans l'article, mes collègues, ils ont demandé le taux de mortalité des plantations. Il dit, c'est faible, mais je n'ai pas l'autorisation de vous le donner. Au Québec, Richard, le gars qui entretient les arbres plantés par le gouvernement n'a pas le droit de te dire combien il en meurt. Et là, on appelle au MTQ, le ministère des Transports du Québec, Gilles Payé. Il ne peut pas nous dire non plus combien il en meurt. C'est confidentiel, Richard, de savoir. Ça me fait... capoter.
Non, mais il faut pas.
Ça me fait rire, capoter, ça n'a aucun sens.
Il faut pas rendre ça public. Les espions chinois pourraient s'en servir. Voyons donc, c'est de la sécurité nationale, ça.
Mais oui, à un moment donné, tu sais, je veux dire, c'est puis je trouve que, tu sais, je le dis un peu sur le ton de la blague, mais tu peux pas penser qu'on a une loi d'accès à l'information avec beaucoup de dents quand t'es pas capable de dire aux journalistes combien il y a de maudits arbres qui meurent dans une année, dans ceux que t'as plantés. C'est un peu une écoute. C'est stupide à la puissance 4 carabinée.
Hey, écoute, un secret national. Souviens-toi que Justin Trudeau avait promis de planter 2 milliards d'arbres. Je serais curieux de savoir à quoi ils ressemblent, ces arbres-là. Tu veux parler d'un adolescent qui s'adresse à Instagram pour effacer les traces d'un meurtre. C'est quoi ça?
Ben oui, un texte qu'on trouve sur notre site internet de TVA Nouvelle. Ado de 16 ans, ça se passe à Ben Salem, en Pennsylvanie, aux États-Unis, bien sûr. Ça se passe vendredi, puis je t'en parle parce que ça a comme un peu fait couler de l'encre tout le week-end. Ils reçoivent un appel, les policiers là-bas, puis il y a une femme qui dit que sa fille avait reçu un appel vidéo d'une connaissance, et durant cet appel-là, il y a un ado de 16 ans qui annonce qu'il a tué quelqu'un, et là, en plus de l'annoncer, il montre les jambes et les pieds d'une personne qui est couverte de sang, et il demande de l'aide pour se débarrasser du corps.
Ben ouais,
les policiers regardent ça, puis ils se disent, ben c'est vrai, et ils entrent, puis il y a ce gars-là, qui s'appelle Joshua Cooper, 16 ans, et une victime. Donc, Il s'adressait à Instagram pour faire disparaître les traces d'un crime. Mais... Et c'est alors que je me suis... Vas-y, Richard.
Mais non, mais c'est vraiment... C'est le roi de... Tu sais, l'émission qu'il y avait aux États-Unis de America's Dumbest Criminals. C'est vraiment ça.
Oui. Mais je me suis demandé aussi si c'était fréquent tout ça que... Et puis, honnêtement, je me doutais de la réponse, mais j'allais regarder un peu la fréquence des crimes qui ont une vie sur les médias sociaux, outre la vie, exemple, qu'un média ou que les journalistes veulent bien lui donner. Ben, écoute, c'est plus souvent qu'on pense. En avril 2019, je consulte un article qui a été du Monde, en fait, et qui reprend une dépêche là faite par l'AFP qui nous parlait d'un meurtre commis en Louisiane, et il y a une Américaine qui a déjà été tuée en direct sur Instagram.
Ben,
son
ouais,
mari. Non. Ah oui, ben oui, mais là, on parle, tu sais, de crime passionnel qui se passe en direct. On franchit une étape assez importante, parce qu'il y a des crimes idéologiques qui, malheureusement, trouvent écho sur les plateformes Twitch. Tu te rappelles de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, hein, où le tireur avait diffusé mais alors là, quand tu diffuses des photos, des images, quelque chose, on dirait que d'un crime passionnel, on est ailleurs en maudit. Alors,
écoute, j'espère que c'est pas un nouveau défi, là. Tu sais, les jeunes se lancent des défis, là. Tu sais, prends un seau d'eau, un glacé, fous-toi ça sur la tête.
Ouais,
là,
ouais,
ça va être quoi? Ça va être tue quelqu'un et mets ça sur Instagram. Le nouveau défi. Vraiment délirant. Écoute, qui participe à la propagande russe à Montréal? J'ai trouvé ça passionnant, ce texte-là, aujourd'hui, dans le journal. Écoute, il y a des gens, on ne sait pas s'ils sont payés par le gouvernement russe, mais visiblement, ils font de la propagande pour le régime de Poutine.
Oui, mention d'honneur à Francis Pinon, Journal de Montréal. Et comme il nous reste peu de temps, je vais te résumer là, en quelques grandes ligues cet article-là. Mais comme toi, j'ai trouvé ça pertinent, intéressant. C'est un long article, d'ailleurs, qui est hyper documenté, qui nous parle, entre autres, de Yves Engler. Yves Engler, c'est lui qui a pris l'habitude d'interrompre la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, lors de ses conférences de presse. Et là, ben, on regarde qui est-il en réalité. Et on regarde et on comprend qu'il a écrit une dizaine de livres prolifiques quand même, qui critiquent notamment les politiques étrangères du Canada. Et chaque fois qu'il interrompt un politicien, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il en profite pour diffuser et ou divaguer en citant de fausses informations, très critiques envers l'OTAN, beaucoup de commentaires pro-russes, et puis il publie ça après sur Internet, et ça tombe dans les mains de qui, tu penses, de tous les médias pro-Kremlin. Un autre influenceur est un prof de politique publique de l'université, un autre professeur, mais il y en a un professeur aussi qui s'est penché depuis 2020 sur ce fameux groupe-là là, dont fait partie Engler. C'est assez intéressant et ça nous fait rendre compte à quel point les médias, qui sont la propriété de quelques oligarques russes d'ailleurs, font la part belle à ces gens-là qui génèrent des contenus qu'on pourrait dire appelés citoyens normalement, mais qui, passés par le filtre de leurs médias, rendent ces contenus-là acceptable, entre guillemets, et ça, nos Canadiens qui interrompent le ministre se spécialisent dans le fait de générer ces contenus. C'est ce que je voulais te dire. Allez lire ça, ça vaut la peine.
Écoute, le gars ressemble à s'y méprendre à Sol Zanetti. J'étais sûr que c'était lui lorsque j'ai vu la photo, le Yves Endler en question. Ce n'est pas Sol Zanetti, comme le gars qui a maîtrisé l'homme en colère lors du point de presse de M. Daguerre. Ce n'était pas Félix Séguin, c'était quelqu'un qui lui ressemblait. Étrangement, faut pas s'y méprendre. Donc, j'ai des gens qui font quand même le rôle du gouvernement de Poutine, qui disent que c'est l'Occident qui a parti la guerre, que le Canada est responsable de la guerre contre l'Ukraine, etc. Ils font des interventions dans des points de presse et c'est des gens qui sont vraiment des agents de Poutine. Salut, bonne journée, Félix.
Bye.
Cube
Radio. Salut, Richard.
Salut, Jean-François.
Dis-moi... On a entendu parler de gens, c'est assez hallucinant au Québec, là, qui ont de la difficulté à se faire répondre ou à se faire soigner en français dans des hôpitaux au Québec.
Écoute, c'était tout un dossier ce week-end dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, dans plusieurs hôpitaux du Québec, des gens qui ont de la difficulté à se faire soigner. Et là, Jean-François, là, on parle pas de gens qui ont de la difficulté à se faire servir dans des restaurants, dans leur langue ou alors dans des boutiques sur la rue Sainte-Catherine. Là, on parle là, de quelque chose de fondamental, se faire soigner. Et dans plusieurs hôpitaux, hein, pas seulement des hôpitaux là, anglophones, ils ont de la difficulté à se faire entendre. On parle de gens qui ont été opérés, de parents dont les enfants ont été opérés, qui se demandent, qui posent des questions sur la santé de leur enfant, leur état de santé de leur enfant, qui sont extrêmement inquiets, qui sont angoissés.
Est-ce qu'on s'entend, Charles, que c'est pas un caprice de se faire répondre en français, surtout lorsque tu sais, on veut se faire répondre de façon précise, on a des inquiétudes et tout ça?
Écoute, tout à fait, c'est pas un caprice, ils ont la difficulté, mais ce qui m'a vraiment attristé, c'est que très peu de gens qui portent plainte. Il faut porter plainte, faut pas avoir peur, là. Vous cherchez pas la chicane, c'est un droit fondamental de se faire soigner dans notre langue, chez nous. Au Québec, on est chez nous, là. Dis, ayez pas peur, là. Ce n'est pas, là, vous cherchez pas la chicane. Écoute, j'en ai déjà parlé. Ma femme, elle s'est fait opérer pour la vésicule biliaire. C'est extrêmement douloureux. Elle avait extrêmement mal à l'hôpital général juif. Et elle parlait à la chirurgienne. Et la chirurgienne, une anglophone unilingue. Elle ne pouvait même pas dire bonjour en français. Et ma femme lui dit, c'est inacceptable que vous parliez pas français. Mmh. Et elle a répondu, well, tell this to your government, they hired me. Dites-le à votre gouvernement parce qu'ils m'ont embauché. Okay. Ils m'ont embauché en sachant fort bien que j'étais unilingue anglophone. Et là, la question, je la pose à M. Dubé. Comment ça se fait que... Oh là, ils vont me dire la pénurie de main-d'œuvre. Je m'excuse, Aldo Lange. Ma femme, c'était avant la pénurie de main-d'œuvre. Comment ça se fait que dans les hôpitaux, actuellement, il y a des gens qui ont été embauchés par notre gouvernement alors qu'ils ne peuvent pas dire un mot de français? C'est inacceptable et plaignez-vous. N'ayez pas peur, c'est votre droit fondamental.
Est-ce qu'on est à ce point à court d'employés qu'on doive accepter que des gens unilingues anglais travaillent dans nos hôpitaux?
C'est scandaleux, là. C'est pas un agent de bord dans un avion qui te répond rien qu'en anglais, dans un avion d'Air Canada, là. C'est une chirurgienne, là, vraiment, là. Inacceptable.
Absolument. Par ailleurs, on revient sur ce que le gouvernement avait fait en contrepartie, évidemment, de tout ce qui avait été produit comme gaz, comme CO2 dans la construction de l'échangeur turco. Il avait dit, on va planter des dizaines de milliers d'arbres. On est retourné les voir. Ça a l'air à quoi, ces arbres-là, un an plus tard? Écoute, c'est pas jojo, hein?
C'est la nouvelle affaire. On va planter des arbres, hein? C'est la nouvelle affaire. C'est une grosse entreprise avec 10 cheminées là, qui fout du gaz carbonique dans les airs, là, de l'arsenic puis tout ça. Oui, mais faites-vous-en pas. On va planter des arbres. Il n'y a aucun problème. Tu sais, avant, regarde, on les voit, ces arbres-là. Des chicots, toi. Vraiment,
des
là. Ben, regarde, c'est n'importe quoi. On dirait les cheveux de René Lévesque, là. Vraiment, là, tu sais. On dirait ton beau-frère qui vient de se faire planter une coupe de cheveux sur la tête, là. Je dis, c'est quoi ces affaires-là, là? On jouera pas vraiment à cachette dans cette forêt-là, me dire, là. Alors, on va planter des arbres, hein. Avant, t'allais voir ton curé, puis tu disais, je m'excuse, je confesse, je me suis touché en pensant à ma cousine, puis là, il disait, bon, écoute, deux, je vous salue Marie, trois, notre père, puis c'est tout. Maintenant, c'est non, deux, je vous salue Marie, trois, notre père, et allez planter 250 arbres, hein. Justin Trudeau avait dit ça, je vais planter 2 milliards d'arbres. Il a dit ça en 2019. 2 milliards d'arbres. L'année passée...
Pas sûr, hein?
L'année passée, il en avait planté 8,5 millions, c'est-à-dire 0,4%. OK? C'est pas beaucoup. Cette année, je sais pas, mais ça doit être des chicots comme ça, là. Je m'excuse. Verrais-tu ça, toi? Oui, j'ai volé un char, OK? Tu vas aller planter 2000 arbres pour ton char. C'est quoi cette affaire-là de dire, ça me donne le droit de polluer comme je veux. Je vais mettre de l'arsenic, tu sais, dans la terre ou quoi que ce soit. J'ai rien qu'à planter des arbres. J'ai fait la job et tout ça. Mais c'est incroyable, ces arbres.
Et on voit, Richard, de toute façon, c'est hautement symbolique. Et le jour où ces arbres-là vont faire une différence, il est encore lointain.
Et on a demandé à la firme qui plante ces arbres-là, écoutez, est-ce qu'il y a des arbres qui vont survivre? C'est quoi la durée de vie de ces arbres-là? Ils ont dit, on peut pas vous le dire. Écoute, c'est une question de sécurité nationale, mon gars. On peut pas le dire, sinon les espions chinois utiliseraient peut-être cette information-là contre nous. Alors, voici les arbres. Écoute, peut-être dans 2000 ans, on va pouvoir se faire... dormir sous ces arbres-là et se protéger du soleil. Bravo.
Richard, passe une belle journée.
Merci, salut, bonne journée.
À demain.
Salut.